façon sur tous les maillots, donc certains joueurs l'ont moins mouillé que d'autres, mais heureusement au final, l'équipe des Corinthians a gagné son match 2-1, ce qui était bon aussi pour le sponsor.
Oui, j'imagine que le sponsor a demandé aussi de suer au plus vite, puisque là, pour que la marque arrive, pas en fin de match, mais tout de suite. C'est pas la première fois, je pense, Frédéric, qu'on utilise, par exemple, la sueur, la transpiration, comme vecteur marketing.
Vous avez raison, hein, c'est pas nouveau, même si ici, sur un terrain de football, cette action de l'apparition progressive d'un logo était inédite. Mais avant cela, il y a eu effectivement d'autres exemples de campagnes où le consommateur était invité à mouiller littéralement son maillot pour obtenir une récompense de la part d'une marque. En 2014 déjà, aux États-Unis, l'agence de pub TBWA a imaginé une action assez audacieuse pour la marque de boissons énergisantes Gatorade. C'était un spot en caméra cachée qui mettait en avant le slogan « Sweat to get it », c'est-à-dire « transpirer si vous voulez l'avoir ». Et donc les clients qui voulaient acheter le produit devaient vraiment donner de leur personne dans le magasin. Ça a été tourné avec la complicité d'un célèbre joueur de football américain. Et donc là aussi, c'est le marketing de la sueur qui a été utilisé pour valoriser la marque et dire finalement qu'elle se mérite.
Oui, la sueur, on a vu aussi parfois peut-être d'autres paramètres physiques.
Oui, tout à fait. On a vu ces dernières années des campagnes assez singulières qui demandaient aux consommateurs de s'impliquer physiquement pour recevoir un produit ou pour bénéficier de certains avantages. Par exemple, l'année dernière, ce n'est pas la sueur proprement dite, mais la chaleur corporelle qui était le paramètre de référence pour cette campagne menée au Canada pour la chaîne de magasins Sports Experts. Dans une station de métro, les voyageurs avaient le choix entre prendre l'escalator ou monter les marches d'un escalier classique pour avoir une récompense. Lorsqu'ils arrivaient au sommet, une borne interactive avec détecteur de chaleur corporelle mesurait leur état physique et ils recevaient un bon de réduction en fonction de l'effort fourni. Bref, plus ils couraient pour monter ce long escalier, plus le niveau de chaleur corporelle augmentait et plus la réduction chez Sport Expert était importante.
Ou alors on prend l'escalator plusieurs fois.
Voilà, oui, on peut
par
le
exemple. Dernier exemple, peut-être assez cocasse aussi, le rythme cardiaque des consommateurs.
Oui, effectivement, je terminerai avec ça, hein, même si on peut encore évoquer d'autres exemples du marketing de l'effort et de la sueur. C'était ici également pour une marque de boissons énergisantes baptisée cette fois Powerade et menée là aussi au Brésil. Ce sont les étudiants d'une école de pub qui ont imaginé le système Power Pulse, en réalité une fontaine de boissons Powerade, a priori accessible à tous, mais qui ne se déclenche que si l'utilisateur affiche un rythme cardiaque d'au moins 100 battements par minute. Le sportif doit poser son doigt sur un capteur intégré dans le robinet de cette fontaine et donc prouver qu'il a lui aussi mouillé son maillot et qu'il a donc droit à une récompense. C'est ça le principe même du marketing de la sueur, impliquer le consommateur dans l'effort pour mieux valoriser la marque en question.
Voilà, les créatifs doivent tout de même bien s'amuser en agence. Pas de marque sur votre chemise.
Non, il n'y a rien qui apparaît.
Pas de sueur aujourd'hui, le rythme cardiaque. Merci beaucoup Frédéric Brabant, journaliste au Trends Tendance. On peut vous lire dans le Trends et puis chaque dimanche dans Les Décodeurs. Merci à vous.
Merci à vous.
Les Décodeurs RTBF sur la première.
Voilà, on va revenir dans le débat. Merci encore à Frédéric Brabant, Gilles Coistiot aussi pour sa rubrique sur l'intelligence artificielle et la voix humaine imitée par les robots. On revient dans le sujet jusqu'à quasiment la fin de l'émission. Petite chronique spéciale dans un instant aussi sur la fête des mères avec deux cadeaux médias à offrir à vos mamans si vous le souhaitez. Nous avons trois invités en studio à Paris pour terminer le débat. Ils ont créé DataGueule il y a 3 ou 4 ans. Ils viennent de livrer sur YouTube aujourd'hui, il y a quelques jours plus tôt, un documentaire qui s'appelle « Démocratie ». On terminera avec eux dans un instant. Jérôme est avec nous, Jérôme Van Reuschevelt. On vous a invité aussi, Jérôme, pour parler depuis ce matin, depuis 10 heures, sur la manière dont le journalisme peut interroger le sens critique des auditeurs, des téléspectateurs, comment essayer de pousser la réflexion. Il y a un nouveau média que vous avez créé aussi, vous, avec une équipe qui s'appelle « Tout va bien ». Si vous le voulez bien, on va entendre. La première capsule YouTube était diffusée cette semaine-ci. On l'écoute en partie et puis on commente avec vous.
Le président de la NVA, Bart De Wever, a récemment demandé dans une carte blanche de choisir.
Bah. Tout le monde est bon ?
Ouais.
Action.
De choisir entre accueillir des migrants et de l'autre côté maintenir notre sécurité sociale. Donc maintenir les pensions de nos petits vieux, les soins de santé, les allocations de chômage, les allocations familiales.
Et voilà le rythme de cette première chronique. Pourquoi avoir appelé ce média « Tout va bien » C'est un clin d'œil un peu ironique à la société actuelle.
Ouais, alors effectivement, d'abord c'est le clin d'œil ironique de « on va parler de l'actu, du monde, de là où tout va bien ». Mais en fait, au-delà de ça, au niveau de l'identité, nous, dans les jeunes qui se sont réunis dans le collectif, on a été, quand on a travaillé l'identité de la chaîne, on s'est tous rendu compte qu'on a été influencés par plusieurs références culturelles, les mêmes, et on se compris le film La Haine. Et donc, dans le film La Haine, il y a la fameuse histoire du mec qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui, tout au long de sa chute, se dit pour se rassurer « Jusqu'ici, tout va bien ». Et donc, en gros, c'était plus à ça qu'on faisait référence, c'est-à-dire où l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, que dans un premier temps, du moins, à la chanson d'Aurel San, par ailleurs. Parce que Aurel San a fait cette fameuse chanson « Tout va bien », et beaucoup de gens ont cru qu'on faisait référence à ça.
Alors, c'est plutôt le film « La haine ». Vous vous entourez, tout à l'heure, ceux qui ont écouté le débat, vous vous entourez pas que de journalistes. Ça me paraît intéressant de soulever aussi quel type de profil vous avez dans votre rédaction alternative.
Alors déjà, on a effectivement pratiquement toutes les personnes qui sont là ont une vision, un projet de société plus ou moins idéal en tête, quoi. Donc ça, c'est déjà la base. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont certaines valeurs, certaines choses à communiquer, quelles que soient leurs compétences. Et puis effectivement, il y a des profils différents. On a une journaliste seulement, et on a des réalisateurs qui ont été formés plutôt au cinéma. On a graphiste, motion designer évidemment pour la technique, et plusieurs ce qu'on appelle des speechers chez nous. Donc c'est des gens qui maîtrisent certains sujets plus que d'autres et qui ont la capacité d'écrire et de pouvoir parler face caméra.
Oui. Henri Poulain est avec nous depuis Paris. Lui, il est producteur, entouré de Julien Goetz et Sylvain Lapoix. Est-ce qu'on parle vraiment de journalisme ici, dans ce cas-ci, à votre avis, Henri Poulain, quand on entend une petite chronique comme Tout va bien qu'on vient d'entendre ici ?
Oui, en tout cas pas moins que lorsqu'on entend ou l'on regarde un sujet à un JT de 20 heures, peut-être même davantage, puisqu'il y a un engagement. Je pense qu'il n'y a pas moins de travail en amont, peut-être probablement davantage. Oui, bien sûr, on peut parler de journalisme, mais c'est pas que de journalisme aussi. On peut parler d'un point de vue et d'un point de vue sur un fait précis, avec une remise en perspective plus globale. Donc on a un travail qui est de journalisme, mais qui va peut-être au-delà même du journalisme.
À votre avis aujourd'hui, quels sont les véritables sujets que les rédactions doivent mettre en avant? Vous avez fait, vous, un long métrage sur la démocratie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sujets qui s'imposent plus que d'autres, qui sont des sujets d'époque?
Alors, je passe la parole à mon camarade Sylvain.
Merci, Henri.
Sylvain Lapoix.
Oui, mais je pense pas qu'il y a des sujets qui s'imposent. Je pense qu'il y a surtout des approches qui s'imposent.
Oui.
Je te fais d'accord avec Henri dans le fait que finalement, un journalisme engagé est aussi légitime et parfois même plus légitime qu'un journalisme dégagé d'un contexte, dégagé d'enjeux sociaux, dégagé de rapports de force. À mon sens, c'est pas tant des sujets, c'est plutôt des modes de traitement. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une quantité considérable de données à traiter et aussi de terrain à explorer, de nouveaux enjeux, de nouveaux engagements, par exemple sur le féminisme, sur la condition animale, sur la fin de vie, c'est des sujets très contemporains, l'effet des nouvelles technologies, et pourtant on continue de tendre les micros à des élus qui n'ont rien à dire, qui ne connaissent pas leur sujet, des acteurs qui sont strictement politiques, qui n'ont finalement pas d'opinion et qui ne vivent pas les enjeux. Pour moi, c'est pas tant des sujets que des nouvelles façons de les aborder et s'écarter de ces vieilles méthodes qui sont finalement des méthodes qui sont très charismatiques et très centrées sur les personnes qui ne sont que des représentants et non pas celles et ceux qui les vivent et qui sont concernés.
Est-ce que ça veut dire former différemment les nouveaux journalistes, les futurs journalistes aujourd'hui à l'ère du numérique, avec ce que vous venez de dire sur l'importance aussi d'être proche des citoyens? Est-ce que ça veut dire que les écoles de journalisme, et j'imagine qu'elles le font, doivent aussi réinventer la manière d'éduquer et de former nos journalistes?
Juste là, donc Henri Poulain, je suis pas journaliste, donc j'en parle un peu à distance, mais je pense qu'avant même toute question de formation, il y a un problème de contexte, il y a un contexte économique et social, de paupérisation des journalistes, qui fait qu'effectivement, les jeunes journalistes aujourd'hui se préparent à travailler dans des rédactions où ils n'auront pas le temps de développer des pas de côté, des regards singuliers, de remettre l'individu, l'humanité au centre des problématiques et non pas des expertises de pseudo-technocrates. Donc c'est tout ça, c'est du temps, et du temps c'est de l'argent dans les rédactions. Donc il y a déjà un contexte effectivement qui pousse pas au travail que l'on voit naître en Belgique avec Esperanza, que nous on tente de porter. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement le contexte ne pousse pas à ça.
C'est plus le web, c'est plus l'internet, les rédactions numériques, on verra, et c'est pas le débat aujourd'hui, mais pour payer aussi ces journalistes, vous avez le sentiment que c'est plus le numérique qui peut accueillir ces nouveaux journalistes?
Julien Gauthier, je me permets de rebondir là-dessus. Je suis pas sûr que le web soit une solution. En fait, ces choses-là existent sur le web parce qu'à un moment donné, il y a des journalistes ou des gens qui sont passionnés des questions d'information qui sont fatigués de ne pas se retrouver dans ce qu'ils voient ou lisent ou entendent, oui, et qui ont un endroit, un espace de liberté qui leur laisse la possibilité de le faire. Donc ils le font, mais c'est pas pour autant qu'ils le font payer, et encore moins quand ils le sont payés, bien payés, parce que l'économie des médias sur le web reste encore sujet à plein de questions, même s'il y a des nouveaux modèles qui existent. Oui. Mais donc du coup, je pense pas que le web soit une réponse. C'est une réponse dans le sens où c'est un espace de liberté, quoi.
Voilà, ce sera un autre débat. Merci en tout cas, on doit clôturer le débat maintenant. Merci, hein, Datagueule, 3 Français, la démocratie, vous le trouverez sur YouTube. Et puis merci aussi à Jérôme Van Reuschevelt. Vous, c'est le média Tout va bien. Merci d'avoir participé à un débat un peu plus long ce dimanche matin, mais important, sur la démocratie.
Les décodeurs RTBF sur la première.
Je l'avais dit, je l'avais promis, deux cadeaux un peu original pour terminer cette émission. 10h53 sur la première, c'est Lucie que j'accueille comme chaque dimanche. Lucie Réjoisy, bonjour.
Bonjour.
Vous dénichez pour nous des petites perles, hein, pour dénicher sur le web. C'est la fête des mères. Qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui comme premier média que vous avez trouvé?
Oui, alors, fête des mères, 13 mai 2018. Hein, c'est dommage d'ailleurs, hein, de rendre hommage aux mères seulement une fois par an. Elles devraient être fêtées chaque seconde de l'année, hein, je tiens à le dire. Alors d'ailleurs, pas forcément pour leur amour inconditionnel, leur dévouement, les petites attentions qui font leur particularité, mais avant tout justement pour leurs imperfections, ces petites choses qui nous énervent parfois ou justement qu'on ne voit plus, notamment une chose qu'elles ont en commun.
Quoi, par exemple?
Les messages qu'elles laissent sur les répondeurs. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, parce que les mères, elles nous appellent, hein. Les pères aussi, mais un peu moins. Généralement, ils sont adeptes d'un OK par SMS. Les mères, elles nous appellent, rarement au bon moment d'ailleurs. Elles laissent généralement un message sur répondeur, voire plusieurs, et ce sont ces messages que l'autrice Mathilde Guermont-Pré a récolté et remonté pour en faire, je vous le donne en mille,
un podcast, j'imagine, voilà, en tout cas une création sonore.
Une création sonore, tout à fait. Je vous laisse découvrir un petit extrait.
On écoute.
Salut Julien, c'est maman.
C'est maman.
C'est maman. Salut ma beauté, c'est maman.
Oui, bonjour ma grenouille.
Salut ma petite chérie.
Bah, c'était papa, maman.
Oui, mon fils. C'est maman. Donc voilà.
Reçu vendredi 13 à 19h08.
C'est pour te donner une bonne nouvelle, j'ai mon micro, mais si tu savais que le délire que ça a été.
Parce que ce matin, je regardais la pub de Lidl, il y a un cuir riz à 15,99€.
Chez Darty, ils m'ont dit qu'il était à la poste depuis le 6.
Et j'ai commencé à passer des commandes. Donc pour ta chambre, j'ai plein de choses. J'ai ton lit, les rideaux, les lampes, le fauteuil et la housse de couette.
Voilà.
C'est croustillant.
C'est vraiment croustillant. Et on s'y reconnaît, on se reconnaît là-dedans, bien évidemment, sûr. Tous ces messages qu'on pense anodins au moment de les recevoir, voire inutiles, et qu'est-ce qu'on les remet en perspective, en fait, grâce à ce podcast. Et encore, je vous épargne les petits passages sur la santé des petits-enfants, hein, quand elle joue le rôle de babysitter, combien de fois il a vomi, ou qu'il s'est fait piquer par un moustique. Et puis, parfois, c'est papa qui prend le téléphone aussi, mais en fait, il répète tout ce que maman dit juste derrière. Et les mères inquiètent aussi, les mères qui annoncent des nouvelles importantes. Voilà, donc c'est un documentaire sonore, drôle et surtout émouvant et qui remet bien à sa place.
Ouais, très chouette, vous l'avez dit, beaucoup de poésie dans ce qu'on vient d'entendre aussi. On peut l'écouter où, ce
Alors, c'est le, il s'appelle C'est Maman, ça dure 4 minutes. C'est pas tout nouveau puisqu'il date d'avril 2015. Ouais. Et vous pouvez l'écouter sur le site de Arte Radio, donc arteradio.com. C'est la plateforme de création sonore d'Arte qui a aussi sa chaîne YouTube et son compte SoundCloud où vous pouvez aussi découvrir C'est Maman.
Voilà, n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout les messages que vos mamans laissent sur vos répondeurs. Lucie, une autre petite vidéo en ce jour des fêtes des mères.
Tout à fait, un petit court-métrage bien web à découvrir sur YouTube qui va toucher tant les mamans que leurs enfants. Il s'agit d'une scène imaginaire où on mélange les époques puisqu'on retrouve une fille adulte qui échange avec sa mère enceinte d'elle, qui la rassure et la remercie. Et je vous en dis plus après ce petit extrait.
Ah oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur de pas assurer, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur que t'aies peur de pas être aimée alors que t'es déjà beaucoup aimée et que t'es même pas encore là, ma petite. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur qu'un jour, je sais pas, tu sois triste et que moi, je m'en rende même pas compte. Comment je fais si un jour je m'énerve sur toi et que je te dis des trucs que je regrette et que toi, après, ces trucs-là, tu t'en souviennes et que ça te gâche la vie? Oh là là.
Wow, maman, calme-toi. C'est quoi cette pression-là?
Je pense que c'est la pression que ressentent toutes les mères avant d'accoucher, enfin j'imagine.
Mais tu t'apprêtes à faire un truc de ouf, tu t'apprêtes à donner la vie déjà. Pareil que ça fait super mal, que tu peux y passer des heures, que tu peux avoir une fissure anale.
Oui, oui, bon, c'est bon, bref.
Non mais t'inquiète pas, tu m'as toujours dit que ton accouchement pour moi ça s'était super bien passé, donc tu vois,
Voilà, cette vidéo, je pense, fait près de 6 minutes. Très créatif hein, comme sujet aussi.
Oui, très, le ton vraiment web, évidemment, on ose un peu plus. C'est très, très émouvant ici aussi. Ouais. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne de l'actrice youtubeuse Maud Bettina Marie, qui a quand même plus de 200 000 abonnés. C'est, alors, l'actrice qui incarne la mère, c'est Sophie Marie Larouy, qui est une autre personnalité du web, puisqu'elle a longtemps incarné son double maléfique, la youtubeuse Vanessa La Bomba, pour ceux qui la connaissent, lors de sa collaboration avec le magazine en ligne Mademoiselle. Et le tout est réalisé par Kevin Kojandi, le frère de Kian, le mec de Bref, tout à fait.
Ouais. Deux petites capsules donc, que vous pouvez tous soit envoyer à vos mamans aujourd'hui des messages subliminaux à transmettre. Moi, c'est quand même une petite préférence pour le podcast Arte qu'on a entendu en début d'émission avec les répondeurs.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci, moi j'en profite pour souhaiter une bonne fête à ma maman, à moi.
Eh bien, on la salue, on lui fait un petit clin d'œil via la radio. J'espère qu'elle nous écoute.
Hein. Oui, elle nous écoute.
Merci beaucoup Lucie Réjoisy, c'est votre maman qui va clôturer cette émission de Décodeur ce matin. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je rappelle le documentaire Démocratie en ligne. Il est possible de réécouter toute l'émission, si vous le souhaitez, via lapremière.be, ovio aussi.be. Très très bon dimanche à tous. La messe, ce sera juste après les infos de 11h. Merci d'avoir été présent ce matin.
La première,
l'esprit clair.
La première présente La Nuit des Cœurs 2018. Ces 24 et 25 août prochains, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale, le CGD et le Chocolat d'Arcy.
Coéquipier.
Coopératif.
Collectif.
Communauté.
Copilote.
Covoiturage au Luxembourg. Rejoignez-nous et faites du covoiturage pour aller au travail. Avec l'application et sur copilote.lu.
Copilote, du ministère du Développement Durable et des Infrastructures.
La première et la une présente Métamorphose. L'événement revient à Liège avec du feu, de l'émerveillement, des centaines d'artistes et une surprise monumentale. Métamorphose, c'est 50 spectacles, gratuits, à ciel ouvert. Du 9 au 13 mai, l'ensemble de la métropole liégeoise est en fête avec la Loterie Nationale.
En télé sur la Une.
Après une 7e saison qui a vu naître des talents d'exception, The Voice revient l'année prochaine pour une 8e édition. Inscrivez-vous dès maintenant sur rtbf.be/The Voice. The Voice, là où naissent les étoiles.